vais vous présenter donc Jérôme Bibette. Jérôme Bibette est né le 7 juillet 1960. Il est physicien et chimiste. Il est directeur du laboratoire colloïdes et nanostructures à l'ESPCI et il est professeur à l'ESPCI. En février 90, il a sa thèse de doctorat à l'Université de Bordeaux. De 94 à 99, il est membre de l'Institut universitaire de France. Et il est professeur à l'Université de Bordeaux et chercheur au Centre de recherche Paul Pascal. En mars 2000, il a créé une société Ademtech qui fabrique des colloïdes magnétiques pour les biotechnologies. Ses spécialités, donc ses recherches portent sur la physique et la chimie des colloïdes et des émulsions. Il a abordé ces systèmes complexes sous des aspects aussi variés que la synthèse, la thermodynamique et la rhéologie ou encore l'étude des instabilités. Ses travaux se situent aux interfaces de la physique, de la chimie et des biotechnologies. Sa bibliographie, donc Jérôme Bibette a écrit une centaine d'articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Il a également déposé plusieurs brevets, dont certains ont fait l'objet d'applications par diverses entreprises, telles que Unilever, Ademtech, Danone et Tifarm. Ses distinctions, en 2000, il a reçu la médaille d'argent du CNRS, du département sciences chimiques. Donc Jérôme Bibette, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons 20 minutes d'échange avec le public.
Avant de commencer, je voudrais remercier de participer à ces séminaires donc, qui se situent aux interfaces, cette fois-ci entre deux disciplines. C'est à la fois un honneur mais un challenge. Je dois dire que je ne suis pas sûr d'aboutir à faire passer le message que je souhaite clair, bien sûr. Donc, il s'agit d'interface entre la physique et plus la biologie. Et pour ma part, aujourd'hui, je vais vous parler de l'interface entre la physico-chimie, de la matière molle, des colloïdes, et le recouvrement avec des disciplines émergentes qu'on appelle être aujourd'hui les biotechnologies, mais comme je le préciserai, elles ne sont pas émergentes d'hier. Certaines sont très anciennes, mais elles sont devenues très à la mode ces dernières années. Alors, l'idée principale pendant le début de l'exposé, ça sera de rendre naturelle cette rencontre entre ces deux disciplines. Je vais aller pas à pas pour ne perdre personne. Je suppose que j'ai pensé à définir toutes les données qui sont importantes. Et pour ce faire, j'ai choisi d'illustrer dans cet exposé de la manière suivante, en différentes parties. Vous avez vu une première partie qui sera assez détaillée, qui concerne l'introduction et les définitions, qui vont nous permettre petit à petit de faire ce rapprochement entre ces disciplines. Ensuite, nous aurons des notions de base sur les colloïdes qui sont indispensables si on veut comprendre comment ces matériaux sont utilisables dans ces disciplines-ci. Et enfin, on regardera le passage des colloïdes aux biotechnologies, comment cette synergie a lieu et quelles en sont les idées clés. Et enfin, on regardera quelque chose qui est un peu plus nouveau, c'est un peu plus dans le domaine des perspectives, si je puis dire, qui sont un peu à l'origine des travaux qui sont menés aujourd'hui dans notre laboratoire et ailleurs. Et on regardera comment ces colloïdes peuvent être assemblés par des molécules biologiques en particulier, et comment ces assemblages peuvent révéler à la fois la présence de ces molécules biologiques et surtout leurs propriétés. Alors, on va commencer doucement et on va tout de suite essayer pour trouver la cohérence de ces deux disciplines, petit à petit les définir. Donc, la première chose à comprendre, c'est la notion de colloïde. Ce sont des matériaux très anciens, ils sont utilisés depuis la nuit des temps. Et on a usage de dire qu'ils appartiennent à la physique de la matière condensée, de la matière molle, il y a plusieurs désignations possibles. Mais en gros, ce sont des matériaux qui sont finement divisés en suspension. Donc ça permet d'avoir une idée simple des choses pour commencer. Tout matériau divisé à l'échelle du micron, c'est-à-dire du millième de millimètre, voire plus petit ou un petit peu plus grand, c'est l'échelle caractéristique, suspendu dans une phase continue, sera dénommé colloïde. Donc vous voyez que ça regroupe une classe infiniment vaste. Et on ne se soucie pas pour l'instant de la nature des matériaux, qu'ils soient solides, liquides, de la nature chimique. Pour l'instant, c'est une classe qui est désignée en fonction de la topologie, c'est-à-dire une division à petite échelle. Enfin, les biotechnologies, je suppose que c'est aussi une discipline un peu nouvelle pour nous tous. Il s'agit d'un ensemble de technologies qui tout simplement font usage de mécanismes ou d'entités biologiques, qu'elles soient moléculaires ou cellulaires. Donc là encore, on a affaire à une classe de techniques relativement vaste. Et on appellera biotechnologie tout processus technologique industriel de préférence qui met en œuvre, qui met en jeu des molécules ou des processus, des mécanismes biologiques. Donc la question, c'est comment cette matière finement divisée à l'échelle du micron, voire plus petit, peut donner lieu à une certaine synergie pour donner lieu à des technologies nouvelles. Donc voilà, la question est posée, l'interface est désignée. À moi d'essayer de vous la faire envisager et d'essayer de faire ressortir les avantages que ça peut nous apporter. Alors d'abord, il nous faut, pour préciser tout ça, donner quelques exemples. Et comme j'ai dit, les colloïdes, c'est la matière divisée. Donc pour vous familiariser avec ces matériaux, il faut les envisager dans toutes leurs dimensions. Le premier qu'on va citer, c'est le lait. Donc le lait, c'est un colloïde parce que c'est constitué de petites gouttelettes de gras, on dira tout simplement, enrobées de protéines, voire de petits amas protéiques qui sont en suspension dans l'eau. Ces objets ont une taille à peu près de l'ordre du micron, voire plus petit. Et on a donc comme résultat une couleur blanche qui est liée à la diffusion de la lumière, donc toutes ces propriétés sont relativement connues. Et c'est un milieu colloïdal typique, suspendu dans un milieu aqueux, et qui peut perdurer un certain temps. Enfin, vous avez des structures comme les nuages, qui sont aussi des colloïdes, ou des milieux colloïdaux, puisque vous avez des micro-gouttelettes d'eau en suspension dans un gaz, dans l'air. Vu de loin, ça a l'air d'une masse, mais en fait, à petite échelle, ce sont des micro-gouttelettes qui sont suspendues dans un gaz. La fumée ressemble aussi aux nuages. D'ailleurs, vu de loin, on peut confondre un nuage de fumée et un nuage tout court. Mais on a affaire cette fois-ci à des petites particules solides qui sont suspendues aussi dans un gaz, donc très petites pour éviter d'être soumises à la gravité de manière immédiate. Et ces particules solides sont particulièrement des noirs de carbone, donc issus d'une mauvaise combustion, ou des oxydes polluants, comme on entend souvent parler. Et ceci constitue aussi un état colloïdal. Enfin, si on va vers le monde plus de la biologie, on a les fluides biologiques comme le sang, qui sont aussi des colloïdes caractéristiques, puisque nous avons des cellules vivantes qui sont typiquement d'une taille de quelques microns, dizaines de microns, suspendues dans un liquide biologique, et c'est encore un état colloïdal. Et enfin, pour finir, on a une vaste classe qui sont toutes les suspensions minérales, comme par exemple le limon, ces argiles en suspension, qui perdurent longtemps, qui parfois, vous le savez, des eaux restent troubles, elles ne décantent pas parce que les petites particules sont suspendues dans le liquide et agitées, et donc stabilisées ainsi. Et enfin, les encres, tous ces matériaux anciens qui ont été formulés de très longue date et qui sont des milieux colloïdaux caractéristiques. Ensuite, nous avons les biotechnologies, et ces biotechnologies sont tout aussi anciennes. Alors j'ai regroupé ici les technologies qui sont connu de tout le monde, donc la fermentation qui nous permet de passer du sucre à l'alcool, donc c'est obtenu par des micro-organismes. L'affinage du fromage, c'est donc plus des champignons qui créent les décorations que l'on connaît. Et enfin, l'acidification du lait avec lactobacille qui permet de créer l'acide lactique et donc de faire d'obtenir la transformation acide et d'obtenir la coagulation des particules du lait. Et puis ensuite, il y a des biotechnologies qui sont plus modernes, qui sont issues de mécanismes de biologie moléculaire qui sont peut-être plus compliqués à décrire, mais qui sont aussi les biotechnologies qui contiennent un enjeu plus important, certainement. Et j'en ai listé quelques-unes ici sans vouloir rentrer dans le détail. Il y a par exemple l'amplification de l'ADN, qui a pu être rendue possible lorsqu'on a compris, ou les scientifiques ont compris, comment l'ADN se répliquait avec certaines enzymes. Alors ils ont pu reproduire ça in vitro et inventer une technologie qui permet de multiplier l'ADN à son identique et donc à partir d'une très petite quantité d'être capable de l'identifier, donc de faire des pas de géant à la biologie moléculaire. De même, à partir d'ARN messagers qui sont collectés à l'échelle d'une seule cellule, on peut le transcrire de manière inverse en ADN, l'amplifier et donc connaître exactement les protéines qui sont issues du processus. Enfin, il y a toute la synthèse des anticorps monoclonaux. Ça, je ne vais pas insister là-dessus non plus beaucoup, mais c'est une catégorie de technologie qui est indispensable au développement maintenant moderne de la biologie. On sait donc réaliser et obtenir le spectre complet des anticorps monoclonaux à partir d'un antigène qui est inoculé à un être vivant. Il y aura tout un protocole qui, en immortalisant les cellules et en les multipliant, permettra à terme d'obtenir le spectre de tous ces anticorps spécifiques de toutes les parties reconnaissable d'un antigène. Et ça, c'est un aspect très important dont on fera usage par la suite. Ensuite, il y a la biosynthèse des protéines. Ça, c'est quelque chose aussi qui est en pleine expansion et qui donne beaucoup d'espoir pour les nouvelles thérapies. Donc, il s'agit de faire fabriquer des protéines à façon par des micro-organismes. Et ceci repose naturellement sur les mécanismes de biologie moléculaire qui ont été identifiés ces dernières années, et particulièrement au début des années 60, par l'école de biologie moléculaire française. Donc, on est capable maintenant d'imposer à un micro-organisme de fabriquer une protéine particulière en greffant une partie d'un génome particulier, en activant ce génome et donc en obtenant un rendement relativement significatif quant à l'obtention d'une protéine bien particulière. Alors, les exemples qui sont les plus connus aujourd'hui et qui sont utilisés sur le plan industriel, pharmaceutique, on a par exemple fabriqué par des bactéries ou des micro-organismes le vaccin de l'hépatite B. On a le facteur 8, qui est un facteur de coagulation qui est utilisé dans les traitements de l'hémophilie, donc fabriqué aussi par des micro-organismes. Enfin, on a l'EPO, qui est mieux connu parce qu'on en a beaucoup parlé, donc ça, c'est plus une hormone. Enfin, on a les protéines dites interférons, qui participent à des traitements dits immunothérapie, qui sont des alternatives à la chimiothérapie des cancers, qui ont en moins tous les effets secondaires et qui sont aussi pleins d'avenir. Donc voilà pour la biosynthèse de ces protéines. Et enfin, les biotechnologies aussi concernent tout un domaine qui est vaste aussi, on ne peut pas encore donner exactement les volumes, le domaine de la bioanalyse, du diagnostic immunologique, de la capture et du tri. Donc en fait, c'est un domaine infiniment vaste de l'identification, de la détermination d'espèces biologiques dans un sérum qui, comme vous le savez, sont toujours des milieux très complexes. Et il s'agit d'identifier avec précision une molécule parmi des milliers, donc une petite quantité parmi des milliers, et pouvoir descendre jusqu'à des concentrations 10-12, 10-15 mols par litre, dans un mélange qui peut contenir jusqu'à 1000 espèces différentes. Donc tout ce domaine-là est absolument crucial pour le diagnostic médical en général, puisque c'est par des analyses fines et répétées, à multicritères, que l'on peut cerner dans des états très précoces une maladie, et c'est naturellement les enjeux de la médecine de demain. Donc voilà, pour résumer, on a défini ce que étaient ces colloïdes, qui sont des matériaux, divisés certes, mais des matériaux toujours. Les biotechnologies, on a donné un aperçu. Donc la question, c'est dans quelle biotechnologie ces matériaux peuvent avoir un impact et comment ça peut donner lieu à des technologies modernes et efficaces. Alors d'abord, il y a un petit dessin animé que j'ai récupéré sur un CD-ROM d'un livre américain de biologie Cell Interactive, et donc qui est destiné à résumer, parce que d'abord je ne suis pas un biologiste, donc j'aurais beaucoup de mal à exprimer ça avec précision, mais qui est destiné à résumer ce que sont les mécanismes biologiques pour pouvoir s'appuyer sur quelques données, sur quelques principes. Et donc, on résumera ceci de la manière suivante. On va considérer d'abord que cette boîte et cette clé sont deux molécules associées, complexées, qui se sont reconnues, et qu'au sein de cette boîte, il y a une troisième molécule, et que le processus biologique en question souhaite libérer cette molécule pour qu'elle aille agir comme un signal sur un autre processus. Donc, comment ces événements peuvent avoir lieu? Donc, on est en train de se poser la question des mécanismes de base, certes coopératifs, de biologie. Alors, on va déclencher le film en espérant que ça marche. Ça devrait marcher, mais j'ai un petit problème. Non. Bon, alors, donc, je vais vous le décrire tout simplement, ça sera tout aussi explicite. Donc l'idée de ce film était le suivant. On a ce premier assemblage, d'autres molécules vont venir reconnaître cet assemblage, c'est là que la coopérativité intervient. Donc on peut avoir une molécule qui vient ici, une autre qui viendra enrober cette partie-là, puis une troisième ici, et puis il y en a une qui passera peut-être une boucle dans la clé. Et quand tout ceci est assemblé et reconnu spécifiquement, une molécule dite d'ATP, qui est donc la source d'énergie en biologie, va venir se complexer quelque part sur l'une de ces molécules, et la transformation de l'ATP en ADP en libérant un ion phosphate va donc donner un impact d'énergie qui peut reconfigurer une molécule quelque part, qui va donc donner un impact aux autres molécules, et donc ainsi on peut obtenir un mouvement qui peut ouvrir la clé et libérer la molécule. Donc vous voyez, ce sont des assemblages complexes dont, à un endroit donné, la molécule d'ADP vient modifier une configuration qui se propage et ainsi un mouvement ou une opération a lieu. Donc la biologie marche comme ça à l'échelle des processus coopératifs et finalement, on a affaire à des processus globaux, coopératifs, mais qui mettent toujours en jeu des phénomènes de reconnaissance moléculaire élémentaire. Finalement, si on a ça en tête, je crois qu'on peut continuer à sur l'exposé assez facilement, puisque ce à quoi on va s'intéresser vraiment, ce sont ces mécanismes de reconnaissance élémentaire qui vont donner lieu aux biotechnologies que je vais décrire. Donc, ces mécanismes de reconnaissance élémentaire, on les retrouve dans le monde de la biologie, dans des événements tels que ceux-là. L'adhésion cellulaire, évidemment, c'est un phénomène qui met en jeu des reconnaissances spécifiques extrêmement précises. Pour juste un exemple, on peut se rappeler que les cellules hépatiques sont capables, les récepteurs des cellules hépatiques peuvent capter l'insuline avec une sensibilité extraordinaire jusqu'à... Elles peuvent saturer leur site jusqu'à une concentration autour d'insuline qui peut descendre jusqu'à 10-11 mol par litre. Donc c'est dire la spécificité de cette reconnaissance. Ensuite, il y a naturellement la reconnaissance antigène-anticorps qui est hautement spécifique et qui permet de créer des complexes dans le sérum afin d'être détruits par les globules blancs. Et enfin, il y a aussi l'hybridation de l'ADN qui est un exemple merveilleux de spécificité et de reconnaissance en biologie puisqu'on sait que la double hélice s'associe par reconnaissance spécifique de ses bases et que l'hybridation de deux simples brins d'ADN aura lieu ou n'aura pas lieu selon qu'il y a une, voire au minimum deux bases qui ne sont pas appariées. C'est-à-dire que la nature est capable de sélectionner l'association de deux brins complémentaires au détriment de un qui est tel qu'il manquerait une ou deux bases qui sont en cohérence avec les appariements de Watson et Crick. Donc ça se fait par un jeu subtil des interactions faibles et de la température naturellement qui explore les configurations une à une. Et on obtient cette spécificité qui est quasiment une magie de la nature, mais qui est à l'origine de tous les processus globaux et plus structurés que j'ai essayé d'illustrer avec le film qui n'a pas marché, excusez-moi. Alors, enfin, pour finir, il y a tous les phénomènes de complexation protéine-protéine ou protéine-ADN. Ceux-ci sont aussi en jeu dans les mécanismes de transcription, c'est-à-dire de fabrication des protéines à partir de l'ADN, où il y a des reconnaissances multiples. Et petit à petit, on arrive à ces machineries biologiques que j'ai essayé plus ou moins d'évoquer. Alors, au point où on est arrivé, on doit se poser la question maintenant, comment ces reconnaissances moléculaires sont impliquées dans les biotechnologies? Eh bien, les biotechnologies qui font directement usage de ces phénomènes de reconnaissance, qui s'en inspirent et dont les progrès se transfèrent immédiatement, ce sont toutes les technologies de la bioanalyse, du diagnostic immunologique, de capture, tri, et reconnaissance cellulaire. Vous voyez bien qu'il y a un lien direct puisque ces phénomènes de reconnaissance sont à la base de l'identification. Donc, progrès dans les phénomènes de reconnaissance, progrès dans les phénomènes de diagnostic. Les enjeux économiques, juste pour donner un chiffre, c'est à peu près 10 milliards de dollars ou d'euros par an. Donc, le domaine de la bioanalyse et du diagnostic, c'est à peu près cette somme-là chaque année. Et c'est essentiellement 98% dans les pays développés. Bien. Alors maintenant, la question qu'on pose, avant d'aller plus loin, c'est finalement comment la science des colloïdes contribue-t-elle à ces biotechnologies particulières? Donc j'ai décrit un certain nombre de biotechnologies plus ou moins complexes. Au point où nous sommes arrivés, on va absolument focaliser sur les biotechnologies que j'ai précisées avant, et on va regarder comment les colloïdes peuvent aider au développement de ces idées. Première chose que je dois faire avant de vous entraîner dans ces commentaires, c'est peut-être de vous donner quelques bases sur la physique des colloïdes en restant simple, mais il y a quelques propriétés spécifiques dont nous avons besoin absolument. Et pour rentrer dans ce débat, on va rester simple, mais on reprécisera que les colloïdes vont de l'encre de Chine au limon du Nil. Vous savez tous que les anciens savaient déjà manipuler ces colloïdes, les rendre stables ou instables, donc ils avaient déjà compris des choses sur les propriétés de surface, sur les mécanismes, même s'ils ne les décrivaient pas au niveau microscopique, mais des recettes empiriques qui permettaient de basculer de stable à instable. Le limon du Nil, par exemple, était collecté dans des bassins et précipité avec du sel afin d'enrichir les sols. Et l'encre de Chine, c'est du noir de carbone qui était stabilisé par des gommes naturelles afin que les petits grains colloïdaux ne s'explorent pas de trop près et puissent rester en suspension. On va en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et puis il y a surtout, quand on parle de colloïde, l'usage de ces matériaux et la façon dont Perrin, il y a presque un siècle, les a utilisés pour découvrir la valeur, mesurer le nombre d'Avogadro. Donc ça, on en dira un petit mot tout à l'heure. Et avant d'aller plus loin, on dira surtout que ces matériaux ont fait des progrès considérables depuis 50 ans et qu'ils sont maintenant arrivés à un degré de sophistication considérable, en ce sens qu'on sait les faire de taille contrôlée, des états de surface contrôlés, et on sait faire des colloïdes dont le cœur, la matière, est essentiellement faite à peu près de tout. C'est-à-dire qu'on pourra faire des colloïdes avec des métaux, des oxydes, des produits organiques, des liquides. Et tout ceci est assis sur un ensemble de technologies qui est bien établi aujourd'hui. Alors, les propriétés communes que nous avons besoin d'illustrer et qui sont essentielles pour la suite, ce sont ces deux points qui sont marqués là. Premièrement, ce sont des matériaux qui sont métastables en vertu de l'état de surface qui est soit naturellement construit par, dans le cas du lait, c'est la nature qui l'a inventé, mais dans le cas des colloïdes synthétiques, on s'arrange pour que l'état de surface confère une métastabilité. Ça, je serais obligé de vous l'expliquer. Et ces colloïdes aussi ont une taille caractéristique telle qu'ils sont tous soumis au mouvement brownien. Alors ça, c'est un aspect crucial que je suis obligé de commenter. Alors il y a un deuxième film que j'espère va fonctionner, ça y est, celui-là il marche, c'est un miracle. Donc sous les yeux, vous avez une dispersion colloïdale. Chaque petit grain fait à peu près 0,4 micron, donc ça fait 4 millièmes de millimètre. Et comme vous le voyez, chacun de ces petits grains, si vous le regardez au microscope, donc ici ça, ce sont des colloïdes liquides ou peu importe, si vous les regardez au microscope, comme il fut fait il y a un siècle par Perrin, vous apercevez qu'ils sont animés d'un mouvement aléatoire. Alors c'est un phénomène qui est relativement connu depuis longtemps, depuis Brown qui est le premier l'a décrit, mais de nombreux grands scientifiques s'en sont préoccupés. Alors ce mouvement est assez curieux et amusant, mais il a une origine très simple. C'est tout simplement qu'entre les colloïdes, il y a l'eau, le solvant, et ce sont des molécules beaucoup plus petites, 1000 à 10 000 fois plus petites, et elles sont toutes agitées par la température avec des mouvements aléatoires. Et en fait, chacun de ces petits grains est frappé par les molécules d'eau, mais la quantité de choc n'est pas toujours la même de part et d'autre, donc il va et il vient dans tous les sens de manière aléatoire. Donc ça, c'est une caractéristique de ces matériaux qui est très importante pour nous parce que ça veut dire qu'ils vont explorer le volume et donc ils pourront interagir adroitement avec des molécules qui seront en suspension. Et c'est ça qui fait certainement une des caractéristiques les plus importantes de ces matériaux et qui nous amène à être capable de les stabiliser de manière adroite. Alors pour les stabiliser de manière adroite et donc obtenir la métastabilité, c'est-à-dire un état durable dans le temps, alors juste une précision, on dit qu'ils sont métastables parce que d'un point de vue purement thermodynamique, l'énergie serait plus faible si on les laissait se regrouper et se colmater. En fait, la matière ne gagne rien à se diviser. Si on veut la conserver dans un état divisé, il faut que les surfaces offrent des répulsions pour éviter l'agrégation, surtout lorsque le mouvement brownien est de manière incessante en train de choquer les particules entre elles, donc de créer des configurations de collage. Donc voilà, nous avons résumé à peu près les éléments que je voulais vous signifier. Bien, alors on va dire juste un mot sur cette métastabilité et son origine. Ici, vous avez deux graphes qui sont la force en fonction de la distance entre les colloïdes. Ce sont des mesures qui sont obtenues directement sur ces colloïdes qui font 200 nanomètres, c'est-à-dire plus petit que de l'ordre du 10 millième de millimètre. Et les scientifiques, maintenant, aujourd'hui, sont capables de mesurer la force exacte qu'il faut appliquer pour les rapprocher en fonction de la distance. Et on s'aperçoit que ces forces peuvent avoir deux origines pour les stabiliser, deux grandes classes d'origine, on dira. Soit c'est d'origine électrostatique, ce qui est ici, et on s'aperçoit que l'on a, alors ce sera le seul propos un peu compliqué que j'emploie aujourd'hui, on s'aperçoit que la force a une allure exponentielle, c'est-à-dire que le logarithme en fonction de la distance est une droite. Donc ce sont des forces exponentielles qui décroissent exponentiellement. Et elles décroissent exponentiellement, que ce soit d'origine électrostatique, c'est-à-dire des ions qui sont situés sur la surface, avec les contre-ions en solution, ou que l'on ait absorbé des macromolécules qui feraient des grands cheveux, des boucles à la surface. Dans les deux cas, ce sont des forces exponentielles. Pourquoi ? Parce que ce sont finalement les objets qui sont absorbés, les molécules, qui refusent de se comprimer. Donc en fait, c'est la réduction de leur volume qui est offert qui conditionne cette répulsion. C'est donc une origine moléculaire et non pas colloïdale. Donc, fort de la connaissance de ces forces de surface répulsives, on peut donc stabiliser les colloïdes et s'en servir. Donc voilà résumé dans les grandes lignes des progrès de 50 ans de recherche. Et pour finir, je vous montrerai ce qu'est la fin de vie d'un colloïde, à savoir, supposer que vous ayez détruit les répulsions entre grains par une opération extérieure, on va dire qu'on a la possibilité de brutalement changer le profil de force et le réduire à zéro. Alors le mouvement brownien va continuer son chemin, et à chaque fois que les colloïdes vont se toucher, ils vont se coller. Et vous obtenez des structures que l'on appelle des gels en général. Donc la résolution n'étant pas suffisante, là par exemple vous voyez une particule, ici une autre, etc. Elles se sont toutes collées comme elles se sont rencontrées, et ça donne des structures qui ont presque une structure ordonnée et qui sont des gels. Donc ça c'est la fin de vie, et cet objet est irréversible. Il aurait tendance à se rétrécir, un petit peu comme le yaourt dans son pot. Quand vous voyez ça, vous apercevez que l'eau est rejetée parce que le gel de gouttelette qui est votre yaourt se contracte petit à petit pour essayer d'augmenter le nombre de contacts. Partout où ça peut glisser, ça le fera et ça se détruira. Bien, alors, je crois que le temps passe, je vais éviter de parler de monodispersité pour le moment. Simplement, je vais abréger cette partie en disant que, de même que l'on sait fabriquer ces colloïdes de manière contrôlée lorsqu'ils sont solides ou plastiques ou toute nature physique, il est possible aussi de les fabriquer de manière contrôlée s'ils sont liquides, c'est-à-dire les colloïdes liquides, ce sont les laits ou les émulsions, tous ces termes vous sont familiers. Il est possible, via des techniques qui sont récentes, d'obtenir des dispersions calibrées de gouttelettes submicroniques, donc calibrées signifiant de même taille, et donc d'obtenir des propriétés uniques pour ces matériaux et non pas distribuées sur un spectre de taille. Donc comment ceci est possible? Je vais être obligé d'éviter d'aborder ce problème-là. Et maintenant, d'arriver enfin au cœur du sujet, si vous m'en excusez, c'est la rencontre entre les colloïdes et les biotechnologies et la biologie. Donc en fait, tout est résumé sur ce transparent. Comme cet objet est un colloïde que l'on sait rendre stable, comme la chimie a fait de tels progrès qu'on sait le faire monodisperse, qu'on sait caractériser la surface et que l'on sait aussi greffer chimiquement une molécule biologique de manière orientée sur ce colloïde, alors on sait associer une propriété nouvelle à cette sonde. Alors cette sonde, c'est un terme générique qui reconnaîtra sa cible. Ça pourrait être un anticorps, ceci un antigène, ceci un brin d'ADN, ceci le brin complémentaire, etc. Mais surtout sans altérer la spécificité de cette reconnaissance. C'est là qu'est le grand pas. C'est-à-dire que si on peut localiser des reconnaissances et avoir une propriété qui est collée à ce phénomène de reconnaissance et qui pourra révéler quelque chose qu'on verra de loin, entre guillemets, alors on a fait un grand pas pour la détection. Et finalement, l'exposé maintenant va tourner autour de ça de manière plus ou moins déclinée. Alors, première illustration de ceci, c'est dans les années 70 que sont apparus les premiers tests immunologiques à grande échelle et qui représentent aujourd'hui 200 millions de tests par an. Essentiellement, ceci aussi est à considérer dans les pays développés. Donc, nous avons un test ici qui est représenté sur ce schéma et qui est ultra simple. Il est ultra simple et c'est pour ça qu'il a été tellement utilisé et décliné dans tellement de modèles, parce qu'il est en une seule étape, donc peu coûteux. Un test diagnostique doit être rapide. Il ne doit pas nécessiter un instrument compliqué, une multitude d'opérations qui nécessitent du personnel. Autrement, il n'est pas utilisable concrètement. Regardez comment marche celui-ci. Vous prenez des colloïdes donc browniens, petits, 200, 300 nanomètres, greffés par un anticorps spécifique d'un antigène qui est ici qu'on cherche à mesurer, dont on cherche à mesurer la quantité en solution. Première chose qui va se passer, c'est que cet antigène va reconnaître l'anticorps, ça, on en est à peu près sûr. Mais si l'antigène a plusieurs sites réactifs sur cet anticorps, comme vous le voyez ici, il a plusieurs points bleus, là, qui se voient à peine, qui peuvent réagir sur la mare rouge, qui est l'anticorps, alors on pourra espérer relier, sous forme d'un gel, comme je l'ai montré tout à l'heure, les colloïdes entre eux. Et donc, la réponse ne se fera pas attendre. On passera d'une solution parfaitement limpide, bleutée, à quelque chose qui va devenir un peu turbide, laiteux, en vertu de l'apparition de ces amas qui vont diffuser la lumière. Donc en fait, la propriété nouvelle qu'on a associée à cette reconnaissance, c'est d'avoir mis un objet qui va révéler la présence du lien simplement par une augmentation de diffusion de la lumière. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'une simplicité extraordinaire, mais qui est extrêmement utile. Alors, maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on a tous les avantages d'un test ici, avec cette technique, ou y a-t-il des limites et des limites techniques? Alors, les limites techniques, elles sont quasiment déductibles de ce que j'ai exprimé avant. La limite technique est la suivante, c'est que votre dispersion doit être stable au début, ne donner lieu à aucun collage pour éviter qu'il y ait une révélation dite faux positif. En d'autres termes, c'est collé, j'ai la maladie, mais en fait je ne l'ai pas, c'est ce qu'on appelle un faux positif. Donc elle doit être stable et elle ne doit se déstabiliser qu'en présence de l'antigène. Donc on a affaire à un problème qui est un paradoxe de cette science-ci, c'est que si on a deux colloïdes tels que ceux-ci qui interagissent avec une force répulsive qui autorise leur stabilité, on veut que la force répulsive ait une portée telle qu'elle n'empêche pas l'antigène de lier deux colloïdes. Il faut que la température puisse explorer des distances assez proches pour que le lien s'établisse. Donc vous voyez qu'on doit avoir une répulsion que l'on a construite de manière volontaire pour stabiliser la dispersion, qui soit très proche de la distance à laquelle le collage spécifique va avoir lieu. Autrement, le collage ou n'aura pas lieu, ou alors on va rentrer dans des collages dits non spécifiques qui sont à très courte portée, et on aura des tests qui seront des faux positifs. Donc voilà la limite de tout ça, de cette technologie, mais elle reste quand même très utilisée, et la mise au point d'un test, si on interroge des gens dans ce métier-là, demande des mois, des années de mise au point avec plusieurs personnes qui vont travailler sur une paillasse dans des plans d'expérience compliqués pour arriver à optimiser la quantité de tous les ingrédients qui sont présents là-dedans, parce que ça c'est le schéma, mais il y a environ une trentaine d'ingrédients qui composent ce test afin d'optimiser toutes les caractéristiques que j'ai évoquées. Ensuite, la deuxième révolution du diagnostic et de la caractérisation des molécules biologiques a eu lieu dans les années 80 et elle est née du contrôle de la fabrication de colloïdes qui cette fois-ci étaient magnétiques. Donc ils sont magnétiques, donc j'ai représenté ça par un dipôle ici pour dire qu'ils sont magnétiques. Donc il s'agit de colloïdes qui avaient les mêmes propriétés, contrôle de taille, de surface, mais tels que on savait insérer à l'intérieur de cette sphère des petits grains d'oxyde magnétique qui donnait alors une propriété superparamagnétique à l'objet. Donc, de manière très simple, il faut imaginer une petite bille de plastique, une bille d'huile, dans laquelle est insérée une foule de tout petits éclats d'oxyde magnétique monodomène qui vont se disperser à l'intérieur de la sphère. Sous l'action d'un champ magnétique, ces monodomènes, comme des aimants, vont s'orienter et vont conférer à l'ensemble un moment magnétique. Donc, la sphère colloïdale, qui est certes très petite, va réagir comme un petit aimant. Donc vous voyez le pas considérable qui est franchi à cet endroit-là parce que ça permet, en gardant la technologie du greffage de la sonde, de capturer une cible et de récupérer avec un aimant l'ensemble des objets qui ont été capturés et d'isoler d'une solution extrêmement compliquée une espèce parmi des milliers d'autres. Et donc s'ouvrir de nouveaux tests, dont le test ELISA, qui est un test très connu aussi, qui sont des tests beaucoup plus évolués, mettant en jeu 3 à 4 étapes au minimum, parce que il faut d'une part attraper la cible, l'antigène en question, il faut drainer tout ça avec le champ, il faut laver le surnageant, ensuite il faut révéler cet antigène avec des réactions enzymatiques. Donc il y a plusieurs opérations qui conduisent à un test qui est naturellement plus sensible, une centaine de fois plus sensible que le précédent, mais 5 à 10 fois plus coûteux et donc qui n'est pas utilisable en toutes les circonstances. Alors il est utilisable dans nos contrées, mais il n'est pas utilisable dans les contrées en développement. Donc on dira juste un petit mot pour essayer d'exprimer l'utilité de ces tests. Le premier test d'agglutination que j'ai exprimé tout à l'heure permet par exemple dans certains pays de détecter l'hépatite B, mais il est 100 fois moins sensible que le test ELISA. Dans nos contrées, l'hépatite B est détectée avec le test ELISA, qui donne un seuil d'infection qui est celui qui est requis par nos normes et qui est, dans le cas du test d'agglutination, bien au-delà des normes requises dans nos contrées. Donc on a un effort à faire, clairement, la communauté des scientifiques a un effort à faire dans cette interface pour inventer des protocoles qui sont rapides, peu coûteux et sensibles. Et si possible, multicritères, comme on le dira par la suite. Bien, alors, au point où nous sommes arrivés, nous avons donc tenté de décrire ce qu'étaient les colloïdes, ces matériaux colloïdaux. On a illustré les biotechnologies. On a sélectionné un domaine des biotechnologies où les colloïdes sont particulièrement utiles. Et on a décliné 2 types de tests, qui sont les tests majoritairement utilisés aujourd'hui. Quand vous allez chez le biologiste du quartier, vos examens seront basés soit sur un test d'agglutination, soit sur un test d'ELISA. C'est à peu près ce qui est en jeu aujourd'hui dans les grosses machines de diagnostic. Maintenant, on va essayer de regarder quelles sont les perspectives possibles lorsque l'on considère toujours cette rencontre entre les matériaux colloïdaux et ces réactions spécifiques. Donc là, je vais vous amener vers des notions un petit peu plus prospectives et essayer de vous faire comprendre qu'avec ces colloïdes, on peut peut-être imaginer d'autres possibilités. Et ceci est obtenu, tout ce que je vais décrire maintenant est obtenu avec donc, des matériaux qui sont des émulsions magnétiques. Donc on est très proche du concept précédent. Elles sont fabriquées à partir d'une huile magnétique cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on prend une solution hydrophobe, une huile quelconque, dans laquelle est dispersé un matériau magnétique finement divisé. Alors les échelles seront typiquement ici, vous voyez que le petit grain que vous voyez fait à peu près 10 nanomètres, et vous avez une collection de ces petits grains dans chacune de ces gouttes, et la goutte fait 200 nanomètres. Donc après, cette goutte pourra être encapsulée dans une croûte de polymère, elle pourra être décorée par des molécules biologiques de la même manière. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir des objets suffisamment petits, donc très browniens, et suffisamment remplis, entre guillemets, d'oxyde magnétique pour être très réactifs vis-à-vis du champ magnétique. Alors, regardons quel petit scénario on peut mettre en jeu avec ces matériaux. Donc ici, on va reprendre le schéma du mouvement brownien exprimé auparavant, et on va jouer avec des colloïdes magnétiques, et on va mettre un champ magnétique, et vous allez regarder ce qui se passe. Donc quand le champ magnétique est appliqué, vous voyez que les colloïdes sont forcés de s'aligner en chaîne, en ligne, qui sont alignées selon le champ magnétique. Donc ceci est un résultat attendu, puisque chacun des colloïdes est polarisé par le champ magnétique, puisque tous les petits grains d'oxyde s'alignent à l'intérieur de la goutte, donc on obtient un dipôle à l'échelle colloïdale. Ces dipôles ont tendance à s'aligner, vous savez ça, et donc on obtient des lignes. Alors ce qui est amusant, c'est que ces lignes sont réversibles lorsqu'on coupe le champ. Comme vous allez le voir, on va bientôt c'est bouclé, les lignes arrivent à maturité, toutes les billes en solution sont consommées dans la ligne, et quand le champ va être coupé, il n'y a aucune raison que cette ligne persiste, tout le monde repart en solution, simplement sous l'action de l'agitation brownienne, le schéma que j'ai décrit précédemment. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette expérience? On peut faire la chose suivante. C'est d'abord remarquer que les lignes seront faites de particules de taille strictement identique. Donc on aura une sorte de réseau unidimensionnel fait de l'alignement de particules de même taille. Donc ce réseau, comme tous les réseaux, aura la possibilité de diffracter la lumière, et ça c'est un phénomène connu. Donc si on envoie une lumière blanche sur cet échantillon qui est représenté ici, mais là les couleurs sont un peu tristes, vous m'excuserez, on va tout de suite s'apercevoir que la solution initiale, qui est une émulsion magnétique qui ressemble à une sorte de café au lait, c'est un mélange d'absorption de l'oxyde de fer et de diffusion du lait, va changer de couleur au fur et à mesure que le champ est augmenté. Tout simplement parce que la diffraction liée à la présence de ces chaînes choisira une longueur d'onde diffractée différente au fur et à mesure que le champ augmente, parce que la distance entre les gouttes va diminuer. Donc ça, c'est le point central. Le champ magnétique va imposer une force dipolaire croissante au fur et à mesure qu'on l'augmente, donc la distance est réduite, donc le pas du réseau change, donc la couleur diffractée change. Donc vous voyez, la possibilité qui est offerte, c'est donc de régler de l'extérieur la distance entre les grains et donc de régler la distance d'approche des molécules que l'on aura greffées, ces molécules biologiques qu'on cherche à reconnaître. Alors pour ça, on rejoue le même jeu que précédemment, c'est-à-dire qu'on met des antigènes qui reconnaissent un anticorps qui est greffé, etc. Et on peut comprendre de nouvelles choses sur la reconnaissance moléculaire. J'en dis juste un mot pour essayer de nous donner un peu le goût de cette recherche autour de ça. On s'aperçoit qu'on peut régler la distance, laisser incuber ces particules sous champ, et mesurer la vitesse à laquelle les liens se forment. Il suffira de couper le champ et de mesurer la longueur des chaînes qui persistent. Et donc on peut faire une cinétique de croissance de ces liens et donc remonter in fine aux propriétés dynamiques de ces associations et particulièrement aux fréquences caractéristiques de ces associations qui sont toujours des grandeurs inconnues et particulièrement inconnues lorsque on s'intéresse aux conséquences des contraintes qu'on impose pendant le processus de reconnaissance. Or, finalement, ce qui nous intéresse, c'est d'être capable de dire quelles sont les conditions optimales où ces reconnaissances vont avoir lieu, puisque c'est dans ces conditions-là qu'on obtiendra une sensibilité maximale du test, qui demeure par ailleurs d'une simplicité absolue. C'est un test toujours en une seule étape. On ne veut absolument pas sortir d'un contexte comme celui-là. Alors, le diagnostic est tout prêt, je l'ai déjà évoqué. Le jeu sera toujours le même, présence d'antigènes, on sera dans des conditions similaires à l'agglutination précédente, mais cette fois-ci, on forcera la reconnaissance dans les conditions optimisées, et c'est la recherche qui est en cours et que j'ai évoquée précédemment, pour que, lorsque le champ est annulé, les petites chaînettes persistent et on lira la présence de ces chaînettes pour révéler la présence de l'antigène. Donc, conceptuellement, la même chose, sauf que c'est assisté par le champ magnétique. Alors ici, vous avez un petit film qui va vous illustrer le phénomène. Donc, on est sous champ et on va lâcher le champ après avoir fait incuber les antigènes. Et comme vous le voyez, le champ a disparu maintenant et les petites chaînes ne se défont plus comme elles le faisaient précédemment. Elles sont juste soumises aux fluctuations browniennes liées au même phénomène que précédemment, mais cette fois, comme vous vous en doutez, les chaînes sont constituées de gouttes attachées les unes aux autres. Donc, seul le mode d'ondulation essentiellement est permis par le mouvement brownien. Bien, enfin, on arrive pas très loin de la dernière partie de l'exposé et on va illustrer un dernier scénario, si vous voulez, que l'on peut envisager lorsqu'on s'intéresse à ces auto-assemblages de particules et comment on peut les intégrer dans des techniques de séparation de détection. L'idée est la suivante, c'est de confiner entre deux plaques dans un canal extrêmement étroit, de 12 microns d'épaisseur ici, donc dans un contexte microfluidique, comme on entend souvent aujourd'hui. Donc dans une veine microfluidique, on pourra déposer ces colloïdes, les organiser avec un champ magnétique, et il se trouve que si la veine est suffisamment fine, peu profonde, quelques microns, l'arrangement est de ce type, c'est-à-dire qu'on obtient des colonnes qui se répartissent de manière équidistante, donc on a une sorte de réseau d'arbres, une forêt bien organisée. Et l'idée est donc d'envoyer des molécules d'ADN, des grosses molécules d'ADN, pour les faire circuler sous l'action d'un champ électrique dans ces colonnes, qui elles sont tenues par un champ magnétique, et de regarder si les collisions de ces macromolécules sur les piquets ne pourraient pas entraîner une sélection en taille d'un mélange d'ADN de tailles différentes, qui serait évidemment une des étapes d'un diagnostic d'une maladie qui serait révélée par des fragments de tailles différentes, évidemment. L'objectif serait celui-là. Alors, c'est juste pour vous illustrer le phénomène d'auto-organisation. Donc, on a les particules magnétiques qui sont confinées entre deux plaques. Le champ magnétique est appliqué. Aussitôt, vous voyez qu'elles s'agrègent, c'est vu de haut, en petites colonnes qui sont toutes équidistantes. Et si on lâche le champ, tout ça repart en solution. Donc l'idée, c'est de faire rentrer des ADN dans ce système-là et de regarder comment ils vont migrer sous l'action d'un champ électrique. Alors voici l'expérience. C'est une expérience filmée dans des conditions réelles. Donc ici, vous avez une molécule d'ADN en solution qui est marquée par des sondes fluorescentes et donc on la repère par sa lumière de fluorescence. On va appliquer le champ électrique, elle va se déplacer. Par contre, les colonnes ne fluorescent pas, donc on ne les voit pas. On ne verra que la collision d'une molécule d'ADN avec la colonne. Alors, le champ est en route, la molécule se déplace, et elle va heurter un piquet. Et voilà, le piquet est heurté. Et ce que vous constatez, c'est que la molécule est obligée de se dérouler complètement avant de se relâcher, afin de se reconstruire un peu plus loin sous forme de pelote statistique, qui est la configuration d'énergie minimale. Et le phénomène que vous avez sous les yeux vous illustre directement comment ça peut aboutir à séparer des ADN de tailles différentes, tout simplement parce que le temps de collision ici sur le piquet, on regarde, dépend de sa longueur, puisque comme vous le voyez, elle doit se déployer complètement avant qu'un des bras soit plus long que l'autre pour dérouler la molécule. Donc ce mécanisme permet de séparer des molécules de très grande taille, jusqu'à 100, 200 000 paires de bases, et de les séparer dans un temps extrêmement faible, c'est-à-dire 10-15 minutes. Alors que les techniques classiques, dans des gels, en électrophorèse champ pulsé, éventuellement, peuvent prendre beaucoup plus de temps, c'est-à-dire plusieurs heures, voire une journée entière. Donc c'est juste pour illustrer comment ces arrangements à petite échelle peuvent cohabiter de manière astucieuse avec ces molécules biologiques et comment on peut arriver à des synergies à droite. Bien, maintenant je crois qu'on n'est pas très loin de la fin, donc j'ai choisi de finir avec quelques perspectives et de vous montrer des images d'assemblage de ces matériaux magnétiques obtenus par des collages qui sont soit des collages biologiques, soit des collages dits non spécifiques, par des polymères, etc. Mais c'est juste pour vous montrer que l'on est capable de les arranger sous forme de fils permanents et de fabriquer, de concevoir, surtout d'imaginer aujourd'hui, de nouvelles matrices pour séparer des cellules demain. Donc le jeu serait toujours le même. Ces longs fils sont faits de l'enchaînement des petites particules de 200 nanomètres. Chacune de ces gouttes peut être décorée par des anticorps spécifiques. Et donc, on peut imaginer que la migration de cellules dans des structures élastiques et actives ou activables par le champ magnétique puisse nous donner des clés supplémentaires pour arriver à sélectionner des cellules parmi d'autres, et surtout avec une pureté absolue. Et enfin, la dernière chose que je voudrais commenter, qui peut nous amener aussi à de nouvelles approches diagnostiques, c'est toujours en cours de réflexion. Donc je me permets juste d'illustrer quelques sujets qui nous tiennent à cœur dans les dernières minutes. Donc ici, on va s'interroger sur la possibilité, à travers cette technique d'auto-assemblage forcé pour reconnaître des molécules biologiques, si en plus de la nature de la molécule en question qui est dans le mélange, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi décrire certaines variabilités de ces molécules ? Parce qu'il y a des maladies qui sont, que l'on peut chercher à détecter, mais qui ont plusieurs stades d'évolution. Et selon le stade d'évolution, l'antigène en question, il n'a peut-être pas la même masse, il n'a peut-être pas exactement la même propriété. Donc il aura la même nature au niveau de sa réactivité sur les anticorps, mais peut-être que finalement le complexe anticorps-antigène-anticorps qui se liera entre les deux particules n'aura pas la même taille, n'aura pas la même masse et n'aura peut-être pas la même flexibilité. Donc c'est ce qu'on essaye d'illustrer ici. Vous voyez, ces fils ont été fabriqués, donc, comme je l'ai indiqué tout au long de cette conférence, et on va s'intéresser maintenant à leur élasticité. Donc vous avez à vous imaginer un fil qui fait 200 nanomètres d'épaisseur. C'est un peu comme une barre métallique infiniment fine qui fait donc 2 dix millièmes de millimètre d'épaisseur. Et imaginez-vous, avec une force délicate, essayer de courber cette tige et d'essayer, selon l'énergie que vous avez à produire pour la courber, de décrire l'élasticité des liens qui lient les gouttes. Et donc, est-ce que cette élasticité peut nous renseigner sur la nature des objets ? Donc, on regarde ce petit film où on va courber avec le champ magnétique ces tiges nanoscopiques. Et on se rend compte qu'effectivement, le champ magnétique veut bien les courber lorsqu'on a orienté à 90 degrés le champ. Mais vous voyez que le fil ne se laisse pas courber complètement. L'énergie minimale voudrait qu'il se casse complètement pour s'aligner dans le champ. Mais il refuse de se casser complètement parce qu'il y a une énergie de courbure ici qui n'est pas nulle. Et donc, cette technique permet de décrire directement l'énergie de courbure et peut-être de détecter à la fois la nature de l'antigène et ses propriétés plus intimes, comme par exemple sa masse ou sa flexibilité, comme c'est le cas en partie dans certaines maladies qui sont liées aux défauts de coagulation, qui sont précurseurs de maladies cardiovasculaires. Voilà, je crois qu'on n'est pas très loin de la conclusion. J'en ai préparé une pour finir. Et pour essayer de résumer l'ensemble de cette discipline émergente à l'interface entre la physique de la matière molle, de la physique de la matière condensée et de la biologie, on résumera ça en trois items. Premièrement, les colloïdes servent à marquer. Comme je l'ai dit, on associe une propriété à la sonde qui trouve une cible, et ce marquage est en plein essor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà des molécules fluorescentes, qui étaient des marqueurs connus depuis longtemps, mais qui sont des marqueurs fragiles, la physico-chimie a fait des progrès et s'est fabriquée de petits colloïdes de semi-conducteurs, qu'on appelle quantum dots en anglais, et qui sont des boîtes quantiques en français, mais qui sont surtout des petits objets qui peuvent émettre en fluorescence à une fréquence bien déterminée selon leur taille. Donc on peut fabriquer des marqueurs qui vont émettre dans un spectre très large de fréquences, et donc selon leur taille, faire un marquage multicritère qui peut même aller jusqu'à un marquage code-barre. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous doutez qu'on est en train d'aborder les phénomènes de marquage multicritère. Enfin, les colloïdes pour capturer et séparer, ce sont les colloïdes magnétiques. Ils ont encore un certain avenir. Clairement, il n'y a pas d'alternative à ces techniques qui permettent de capturer une cible avec sa sonde et le colloïde magnétique qui est drainé par un champ magnétique. Des matrices telles que celles que je vous ai présentées sont à l'étude. Et enfin, il y a les colloïdes magnétiques auto-assemblés qui permettent de piloter des forces et des contraintes. Et ceci pourrait peut-être être une alternative au diagnostic par agglutination, à condition qu'il se révèle être beaucoup plus sensible, tout en étant aussi facile à mettre en œuvre. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de ces questions-là. On a à peu près tenu 50 minutes. Donc je vais vous remercier, et en espérant que le message a été adressé.
Bonjour. dans les études de vieillissement, on parle beaucoup de l'usage de colloïdes pour les questions de régénération de cellules, c'est-à-dire que les cellules qui perdent l'oxygène, ça devient on a besoin de quelque chose interoxygénant. Est-ce que vous pouvez expliquer comment cette pensée marche? Et deuxième question, est-ce que c'est la question alimentaire qui est aussi importante dans cette même idée pour la régénération des cellules dans la question de vieillissement?
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. J'aimerais mieux que vous la reposiez. Est-ce que vous pourriez reposer la question? Je n'ai pas bien compris, excusez-moi.
D'accord, excusez-moi. J'ai dit qu'on parle dans l'histoire d'études de vieillissement qu'il y a beaucoup d'importance pour les colloïdes. Que c'est une question...
Le vieillissement des colloïdes ou le vieillissement des colloïdes, vous entendez?
Non, c'est-à-dire que de l'utilisation
de colloïdes pour,
pour régénérer les cellules, parce que comme les gens deviennent plus et plus vieux, leurs cellules ils perdent l'oxygène, et donc ils veulent utiliser, je dis eux, c'est-à-dire les chercheurs, veulent utiliser d'une façon ou d'une autre, je n'ai pas compris exactement, les colloïdes.
Les colloïdes pour colloïdes, régénérer les cellules.
Pour régénérer les cellules. Et le deuxième aspect de mon question, est-ce que la question alimentaire, c'est aussi important dans cette utilisation des colloïdes, ou est-ce que c'est une autre manipulation génétique qui est vraiment importante? Dans la question de vieillissement, bien sûr, pour la régénération des cellules.
Oui, donc je vais répondre autant que je suis compétent dans le domaine. Les colloïdes sont utilisés ou en passe d'être utilisés pour différentes thérapies, c'est-à-dire que là vous êtes en train d'aborder simplement la question de savoir si on peut les injecter in vivo et cibler des zones particulières de l'être vivant pour traiter localement, donc ça sera pour traiter le vieillissement, mais pour traiter des maladies, c'est la même question en fait. Donc la question c'est en cours. Il y a déjà des études qui sont avancées, voire déjà en phase chez l'homme, où les colloïdes sont directement utilisés pour entrer dans la circulation sanguine. Ils ont une décoration telle que, la décoration de surface, telle qu'ils vont reconnaître une cible donnée, c'est-à-dire un des organes qui est visité par la circulation sanguine. Et donc on arrive à des effets de traitement extrêmement locaux et efficaces. Mais on peut considérer que ce sont les balbutiements de ces techniques-là aujourd'hui. Ce sont les balbutiements pour des raisons de toxicité. Parce que vous voyez que le challenge, c'est d'arriver à obtenir des matériaux qui ne sont pas toxiques, biodégradables, et qui ont le même contrôle, voire un contrôle encore plus élaboré des propriétés de surface. Donc, autant in vitro, on peut jouer les jeux que j'ai racontés, in vivo, c'est une étape supplémentaire. Voilà, à votre question... Je peux répondre ainsi. Maintenant, sur la partie qui a à voir avec la génétique, je ne sais pas.
À chaque fois, sur l'écran, vos molécules réceptrices sélectives que vous greffiez sur vos gouttelettes étaient à 90 degrés ou diamétralement opposées. Est-ce que vous arrivez à le faire ou est-ce que c'est uniquement pour le dessin?
Alors, une grosse partie de la réponse, c'est pour le dessin, c'est les facilités du logiciel, bien sûr. Mais plus précisément, la façon dont la molécule est greffée va affecter sa sélectivité à reconnaître l'antigène. Mais là, on est plutôt dans un domaine empirique. On met au point petit à petit des recettes de greffage qui font que la reconnaissance se passe bien. Maintenant, vous dire exactement qu'elle se positionne comme ça à la surface, ce serait un peu audacieux.
Je voulais vous demander, d'une part, est-ce que les forces osmotiques, parce que colloïdes, ça a évoqué pour moi les forces osmotiques, est-ce qu'elles jouent dans ces phénomènes que vous avez décrits? Et d'autre part, étant donné les dimensions, est-ce qu'on peut parler de nanotechnologie ou alors c'était tout à fait différent?
Parce que les forces osmotiques, donc la notion de pression osmotique, ne joue pas dans ces expériences parce que la concentration des colloïdes est très faible. Donc il n'y a absolument aucun effet osmotique. Il n'y a, pour parler de manière plus précise, il n'y a pas de modification des propriétés du solvant par la présence des colloïdes. La deuxième question, excusez-moi. Est-ce qu'on peut parler de nanotechnologie ? Ah, de nanotechnologie. Je crois que les nanotechnologies, on est en plein dedans, surtout lorsque on regarde l'expérience qui consiste à imposer une force sur ces biomolécules entre deux petits objets qui sont de l'ordre de 200 nanomètres. Les objets sont de 200 nanomètres, mais l'intervalle est de quelques nanomètres. Et on peut piloter des distances qui sont en plein dans le domaine des nanotechnologies.
Bien, Jérôme Bibette, merci beaucoup.